Donc lors de son dernier repas, Jésus-Christ a pris du pain et du vin, il l'a offert à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». En général, on a compris cela comme l'institution d'un rite qu'on appelle sacrement, le sacrement central de la vie des chrétiens. Cela veut dire geste à répéter et qui dit la grâce de Dieu offerte à tous. Mais la question que je voudrais creuser un petit peu avec vous, c'est de savoir, en fin de compte, comment ça marche. C'est-à-dire en quoi est-ce que le fait de participer à une sainte cène change quoi que ce soit pour nous et comment est-ce que ça peut renouveler notre vie. Alors il y a là-dedans de nombreuses incompréhensions, je crois. Et il y a d'abord des interprétations qui ne me plaisent pas beaucoup, mais donc, je dis pour ceux qui ne sont pas habitués à ce lieu que là, en tant que pasteur, je ne prétends pas déclarer la bonne interprétation des choses et encore moins de la Sainte Cène, mais je vous dis mon propre regard et chacun se fait son idée ensuite. Et donc l'interprétation que je n'aime pas, c'est celle un peu simpliste et enfantine que je dirais qui est celle de la Sainte Cène qui fonctionne comme un médicament. C'est-à-dire qu'il y aurait des paroles d'un officiant qui transformerait du pain vulgaire et du vin ordinaire en corps et sang du Christ, et qu'ensuite il suffit de manger cela pour que le Christ se rende, par l'effet de l'ingestion de cette matière, que le Christ se rende présent. Et que par conséquent, il y aurait une sorte de présence réelle de Dieu qui serait donnée par l'ingestion de ces espèces. Et que du coup, évidemment, il faudrait pratiquer très régulièrement pour avoir la présence réelle de Dieu, parce que sinon on se coupe de la source unique de la présence réelle de Dieu. Alors je vous l'ai dit, moi je n'aime pas trop cela, je pense que je ne crois pas à la magie, je pense que le pain reste du pain et que le vin reste du vin, et qu'il n'y a pas de principe actif biologique dans l'affaire, et que finalement l'important c'est que le geste ait un sens, c'est-à-dire que c'est de signifier par un geste que l'on veut se nourrir de la présence du Christ et que l'on veut vivre de sa parole, de son enseignement, de toute sa vie et de tout ce qu'il a été. Alors il est vrai que chez les réformateurs, ils ont eu tendance à essayer de minimiser un petit peu l'importance de la scène. En fait, en disant, écoutez, la principale source de la présence réelle de Dieu, elle ne se trouve pas dans le fait de participer à un rite d'église, mais elle se trouve dans la Bible, c'est-à-dire dans la parole. Alors là, ça change beaucoup de choses, parce que si la présence, le lieu même de la présence réelle est la parole, alors cela veut dire que vous pouvez avoir la présence, la plénitude de la présence réelle de Dieu chez vous en lisant votre Bible, et vous n'avez pas besoin d'aller au culte pour la voir. Et que par conséquent, vous pouvez tout à fait trouver cela. Et c'est pour marquer ce décentrage, en fait, la réforme a opéré un décentrage qui était avant centralisé sur l'Eucharistie, et la réforme l'a décentré sur la lecture et la prédication de la parole, d'où l'importance majestueuse de cette chaire d'où je vous parle, qui surplombe les espèces. Alors, cela dit, également, Calvin en particulier avait insisté pour dire qu'il fallait surtout qu'il n'y ait pas de communion tous les dimanches, pour montrer justement qu'on peut s'en passer. Ça peut sembler un peu masochiste, mais c'était une manière d'essayer de la remettre à sa place. Alors, si on peut se passer de la communion, pourquoi la fait-on quand même ? Parce qu'aucun des réformateurs n'a eu l'idée de dire qu'on pourrait se supprimer entièrement ce rite. Alors on a reproché aux protestants de considérer la communion comme une chose un peu secondaire, en disant pour eux ça n'est que quelque chose de symbolique. C'est un peu la voie dans laquelle j'ai commencé à m'engager tout à l'heure. Que la communion soit symbolique, c'est vrai pour Zwingli, le réformateur suisse, c'est évidemment faux pour Luther, et pour Calvin c'est un peu entre les deux. Pour moi, je dirais oui, j'affirme, la communion est un geste symbolique. Mais le symbole n'est pas rien. Et en particulier, trop souvent on entend dire dans les réunions, les dîners mondains ou autre chose, on dit « Ah oui, pour vous les protestants, la communion ça n'est qu'un symbole et vous n'avez pas la présence réelle. » Eh bien, je prétends que si, pour moi, dans la communion, il y a une présence réelle. Évidemment, présence réelle, c'est-à-dire que je ne crois pas dans une présence matérielle. Si on mâche un morceau d'hostie, il ne va pas y avoir du sang qui va en sortir. Et c'est quelque chose qui se reçoit dans la foi. Si un chien passe par là et mange une hostie tombée par terre, il ne va pas croquer le Christ, il va croquer un bout de pain. Donc cette présence, elle est symbolique, évidemment, je le pense personnellement. Mais néanmoins, je maintiens que je peux dire que dans ce pain et dans ce vin, quand on communie, dans la foi des fidèles qui le reçoivent, c'est bien le corps et le sang du Christ. Et ça, je vais vous le prouver. Par exemple, si je vous montre une photo de moi, voilà, ça c'est moi, et vous me direz, est-ce que c'est vous? Je dirais, oui, c'est moi. Mais est-ce que c'est vraiment vous? Je dis, oui, c'est vraiment moi, c'est réellement moi. Donc cette photo, c'est bien moi. Et je vous dis, voici, c'est moi. De même que quand je prends le pain, je peux le donner à mon voisin en disant, c'est le corps du Christ. Et je peux prendre la coupe en disant, c'est le sang du Christ. Mais c'est le corps du Christ comme cette photo, c'est moi, c'est-à-dire que ça l'est sans l'être vraiment. Bien sûr que si cette photo tombe par terre et que vous marchez dessus, ce que vous allez piétiner, c'est pas moi, c'est une photo. Ou alors vous direz, mais c'est vous, mais non, c'est pas vous, parce que vous, alors il y a deux mois, moi je suis là, ça c'est moi sans être moi. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Et toute cette histoire me fait penser à ma deuxième image, que je montre régulièrement à mes catéchumènes dans les cours de théologie pratique sur le sens de la scène. Tout est expliqué dans un seul célèbre tableau de Magritte, que vous avez là, mais vous ne le voyez peut-être pas, mais vous le connaissez par cœur. C'est une pipe, et il y a écrit en dessous, « Ceci n'est pas une pipe ». C'est là tout le paradoxe de la scène. Parce qu'effectivement, vous allez dire, « Mais si, c'est vraiment une pipe ». C'est bien une pipe, donc le titre est faux. Mais un petit malin vous dira, mais écoutez, c'est pas vraiment une pipe, puisque vous ne pouvez pas la fumer. Et vous ne pouvez pas mettre du tabac dedans et y mettre le feu. Donc ça n'est pas une pipe, ça n'est qu'une reproduction de pipe. Eh bien oui, c'est une pipe sans être une pipe. Eh bien c'est la même chose pour la scène. C'est le corps du Christ sans être le corps du Christ. Mais ça l'est réellement. Et la présence est plus que symbolique. Maintenant, je reprends ma photo. Admettez que vous soyez tellement choqué par mes propos qu'à la fin vous vous réunissiez à plusieurs, que vous arriviez à prendre ma photo et en cercle vous mettez ma photo par terre et vous crachez dessus. Sur quoi crachez-vous? Vous ne crachez pas sur un bout de papier, vous crachez sur moi. Et donc c'est bien moi qui suis présent dans cette image. De même que quand on voyait à un moment donné des Palestiniens mécontents contre les États-Unis qui brûlent un drapeau américain, à quoi s'attaque-t-il? On dit « il s'attaque à la nation américaine ». Pourtant, vous pourriez dire « mais il s'attaque juste à un bout de tissu ». Mais vous voyez que les symboles sont beaucoup plus importants qu'on ne pense. Et par conséquent, je dis moi qu'en prenant ce pain et en buvant ce vin, c'est bien le corps et le sang du Christ qui sont présents dans la foi parce que je les considère comme tels. Et c'est donc ça, ce que nous voulons signifier par là, c'est de dire que je veux faire un geste montrant que je veux mettre le Christ en moi. Et peut-être que je suis naïf et enfantin, mais quand je bois une gorgée de vin, eh bien j'imagine, j'ai l'impression qu'il y a une force qui rentre en moi, qui est celle du Christ. Je le vis comme ça. Alors j'aurais tendance à dire que finalement, tout ça je me pose des questions idiotes, écoutez, peu importe comment ça marche, ça marche. J'allais dire, c'est comme l'homéopathie. Si ça marche pour vous, ne vous posez pas de question de savoir s'il y a des principes actifs ou pas. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Et on n'est pas obligé de tout décortiquer. Et donc, moi, je dis que communier, c'est exprimer, c'est vivre avec son corps une réalité de la foi, c'est vivre matériellement quelque chose d'intérieur, et c'est de faire en sorte que la foi ne se reçoive pas seulement par l'intelligence, par la réflexion, par la tête, par l'écoute ou par la parole, mais aussi par un geste, et finalement par tout son corps. Et puis, il y a une autre dimension essentielle dans la communion qui est très importante, donc ça c'est une communion je dirais verticale ou en communion, on communie avec Dieu. Il y a une autre dimension fondamentale qui est la dimension humaine. C'est vrai que nous aimons bien chez les protestants parler de communion à la limite plus que de scène, de sainte scène on le dit aussi, ou d'eucharistie qui est le mot grec. On parle de communion parce que certes, c'est communier avec le Christ ou communier avec Dieu, c'est le mettre en soi symboliquement, mais c'est aussi communier les uns avec les autres en disant que nous sommes tous frères et sœurs au bénéfice d'une même source de vie. C'est-à-dire qu'on s'associe les uns avec les autres. Et ça, c'est particulièrement mis en scène dans nos communions aujourd'hui, où les fidèles sont invités à se mettre en cercle autour du temple, justement pour dire qu'on ne communie pas seul face à l'autel ou face au pasteur, mais qu'on communie les uns avec les autres. Et je prends le pain et le vin qui me sont tendus, non pas par un pasteur, mais par mon frère et par ma sœur. Donc nous sommes tous ensemble au bénéfice de cette même source de vie. Et ça, je crois que c'est assez beau, cette communion humaine est importante parce que, oui, j'ai besoin de la source spirituelle, de la présence de Dieu dans ma vie, j'ai besoin de son réconfort, j'ai besoin de ce pain qui me donne la force de mon corps, de ce vin qui réjouit mon âme, comme nous disons dans nos liturgies, mais j'ai aussi besoin de ne pas être tout seul. Et c'est là où les réformateurs ont eu raison de dire « il faut maintenir la communion ». Parce que je vous l'ai dit, vous pouvez avoir la présence de Dieu en lisant votre Bible tout seul dans votre lit, mais dans votre lit, vous êtes tout seul en lisant votre Bible. Et il faut des frères et des sœurs, il faut une communauté. Et pour vivre, nous avons besoin d'avoir des frères et des sœurs autour de nous, de ne pas être seul. Et donc voilà la chose essentielle de dire nous avons besoin d'amitié, de relations, de soutien, de fraternité, de confort, de réconfort humain autour de nous. Et qu'après tout, oui, nous nourrissons de choses spirituelles, mais les choses humaines et terrestres ne sont pas nulles pour autant. Et ça, c'était beaucoup plus présent dans la forme qu'avait la communion dans les temps apostoliques, dans les tout premiers temps de l'Église. Vous le savez, autrefois, la communion était un vrai repas. Et les chrétiens se réunissaient en temple, ils faisaient un banquet, et puis là, il y avait profusion de bon vin, profusion de pain, il y avait à manger, et on mangeait ensemble, et on se réjouissait autour d'une table bien garnie. Et ça s'appelait les agapes, du mot agapé en grec, qui veut dire l'amour. Les premiers chrétiens faisaient cela, et ils mangeaient bien en se souvenant de cette présence du Christ. Et donc ils avaient les deux, si vous voulez. Il y avait justement la dimension spirituelle et la dimension humaine. Il y avait l'esprit et le corps. C'était une façon de réunir les deux. Et c'est vrai qu'il est bien de se nourrir d'amitié, de se nourrir de bonne chair, de joies humaines, et de se nourrir en même temps de valeurs et de dimensions spirituelles. Qu'il faut profiter de la vie, certes, mais ne pas se perdre dans les plaisirs. Et inversement, il ne faudrait pas croire que la seule source de joie de notre vie serait de prier à genoux. Il faut les deux. C'est dommage que dans nos rites, finalement, on n'ait gardé qu'un simulacre de repas. On n'a gardé que le sens symbolique. Et bon, c'est un peu dommage parce que finalement, c'est un peu comme si... Pour vous, je disais, vous voulez un bon repas, ben tenez, je vous sers une arête de poisson, ça symbolise le poisson, ça vous nourrira. Ben, ça me nourrit un peu dans l'idée, mais dans la réalité, pas trop. Mais c'est sans doute parce que c'est plus simple comme ça, on ne va pas faire des banquets pour tout le monde tous les dimanches. Bon, enfin bref. En tout cas, dimension horizontale absolument essentielle, où pour une fois, au lieu d'être assis comme là, comme à l'école, où on ne voit que le dos de celui qui est devant, on se fait face. Et on est en centre, on est ensemble, et cette double communion verticale et horizontale qui finalement représente la croix avec la barre verticale qui est la communion spirituelle et la barre horizontale, un peu plus petite quand même, qui est la communion humaine. Et puis voilà, premier point. Ensuite, parmi les incompréhensions, je crois, que suscite la scène protestante, c'est que j'entends dire aussi parfois dans mes dîners mondains: ah oui, pour vous, les protestants, la scène n'est qu'un mémorial. Apparemment, c'est ce qu'on enseigne aux prêtres dans les séminaires catholiques, puisque chaque fois que je vois un prêtre, il me dit « ah oui, pour vous, ça n'est qu'un mémorial ». Qu'un mémorial, c'est-à-dire que ce serait juste un geste pour se rappeler du dernier repas fait par Jésus. C'est vrai qu'il y a les paroles du Christ qui dites « faites ceci en mémoire de moi ». Mais néanmoins, je ne pense pas que notre scène ne soit qu'un mémorial. Ça, c'est tout à fait faux. c'est beaucoup plus que cela. Je vous l'ai prouvé là, je vous l'ai dit. Manger, prendre la scène, c'est communier ensemble, c'est communier avec le Christ et mettre en soi la présence réelle du Christ. C'est pas juste un mémorial, c'est pas un nœud que je fais sur mon mouchoir pour me dire « Ah oui, tiens, c'est vrai, Jésus est mort pour moi, j'allais oublier. » C'est évidemment beaucoup plus que cela. Il y a quelque chose de fort, de puissant. Et la scène n'est pas pour nous qu'un moyen mnémotechnique, en quelque sorte, comme il faudrait pour avoir ça. Mais cela dit, je crois comprendre d'où vient cette idée qui traîne, disant que la scène chez les protestants ne serait qu'un mémorial. Donc, ça n'est pas qu'un mémorial, mais c'est quand même la dimension mémorielle est effectivement très importante dans notre vision de la scène. D'abord parce que je pense que ceux qui parlent de mémorial, c'est pour dire une chose qui, elle, est, je crois, réelle, c'est qu'il n'y a pas dans la scène protestante, à tort ou à raison, de dimension de sacrifice. Je crois que c'est ça qu'ils veulent dire. Ils disent, pour vous, ça n'est qu'un mémorial, donc sous-entendu, pour vous, ça n'est pas le sacrifice de la messe ou le sacrifice de l'Eucharistie. En effet, c'est vrai que les protestants ont tendance à dire, nous voulons nous recentrer sur le sacrifice unique et parfait offert une fois pour toutes par notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous disons dans nos liturgies, et qu'il n'y a pas à répéter le sacrifice. Et donc on ne répète pas le sacrifice, on en fait mémoire. Et du coup, quand nous faisons la communion, même dans les anciennes liturgies, et même luthériennes, on parlait du sacrifice de l'Église. Et donc on a l'impression qu'on offre un sacrifice à Dieu en faisant l'Eucharistie ou la scène. J'avoue que là, je ne comprends pas trop. Cette idée de sacrifice, pour tout vous dire, me déplaît très fondamentalement. J'y vois quelque chose d'un peu païen. Puis je ne vois pas l'idée. Alors, on offre un sacrifice à Dieu, pourquoi ? Comme pour les dieux païens, pour calmer sa colère, pour essayer de le rendre bienveillant. Et est-ce que Dieu a quelque chose à faire qu'on fasse le sacrifice de quoi ? De 3 euros de pain et d'une mauvaise bouteille de vin ? C'est vraiment ça, un sacrifice ? Je ne crois qu'il n'y a aucun sacrifice là-dedans, et ni moi quand je célèbre, ni vous quand vous venez, il n'y a pas de sacrifice, je ne vois pas, je ne comprends rien à cette histoire de sacrifice. Et c'est pourquoi, tout à l'heure j'ai dit que pour Luther, dans son petit catéchisme, il disait « le sacrement de l'autel ». Donc Luther parlait d'autel, un autel c'est un lieu où on offre un sacrifice, mais dans la tradition calviniste qu'est la mienne, on ne parle pas d'autel. On parle de table de communion. Donc il n'y a pas d'autel, pas de sacrifice, pas de rite païen, pas de choses propitiatoires, pas de choses, etc. Il y a eu un seul sacrifice qui nous sauve une fois pour toutes, c'est celui de Jésus-Christ. Alors, sacrifice, effectivement, du coup, il faut comprendre que ce mémorial est plus qu'un mémorial. Parce que quand Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi », la question, c'est qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Soit il a voulu dire, eh bien, écoutez, je fais un geste et vous allez répéter indéfiniment ce que j'ai fait. Ou alors, ce que je crois, c'est qu'il a dit, vous voyez mes enfants, moi, je me sacrifie pour vous. Eh bien, ce que je fais là, faites-le vous-même en mémoire de moi toute votre vie. C'est-à-dire, offrez-vous vous-même en sacrifice à Dieu. Ça, c'est ce que dit Paul dans sa lettre aux Romains. Offrez-vous vous-même en un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, en ne vous conformez pas au monde présent. Et donc, ça n'est pas de répéter indéfiniment le geste. Si vous voulez, c'est comme le professeur qui dit à l'élève qui dort, répétez ce que je viens de dire. Et il dit, ce que je viens de dire. Bon, ok, c'est pas ça que je voulais dire. Je parlais de ce que j'avais dit avant, de ce que c'est pas de répéter un geste ou deux mots qui ne veulent rien dire. C'est répétez ce geste en mémoire de moi, et comme moi je me suis offert en sacrifice, offrez-vous en sacrifice. Et donc le sacrifice de l'Église, il n'est pas ici en prenant du pain et du vin, il est dans la vie que vous mènerez ensuite dans le monde, en vous donnant pour vos frères et sœurs les plus pauvres ou les plus en difficulté, et lorsque vous donnerez vous-même votre vie pour les autres et pour le monde. Et ça fait de nous des acteurs de ce monde. Et du coup, cette communion, c'est de nous rappeler qu'il y a quand même quelqu'un qui, lui, s'est offert jusqu'à la mort pour nous. et que nous pouvons nous nourrir de ce témoignage d'engagement, de force et d'amour dont le Christ a témoigné, et que je me remplis de toute cette reconnaissance du sacrifice du Christ, et je dis, eh bien moi, je vais à sa suite, en mémoire de lui, essayer de me comporter dans ce monde comme un petit Christ autant que je le peux. Et puis, quand on parle de mémorial, j'aime bien cette idée de mémorial, parce que c'est peut-être plus fort qu'on ne pense. En effet, vous savez que dans la tradition juive, toutes les fêtes, je crois, ou pratiquement toutes, sont des mémoriales. Toutes les fêtes sont des mémoriaux, pardon. Pâques, célèbre Pâques pour se souvenir de la sortie d'Égypte. Et si les Juifs fêtent Pâques, c'est pas pour se dire « Ah oui, c'était le bon temps, hein, on est sorti d'Égypte », c'est pour dire « Je crois dans un Dieu qui aujourd'hui nous libère encore ». Soukhot, c'est la fête pour se souvenir que le peuple a vécu dans la plus grande précarité et se mettre dans des cabanes qui ne protègent de rien, pour se souvenir que le seul qui tient notre vie entre ses mains, c'est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et Soukhot, c'est pour dire « Aujourd'hui encore, je reconnais que je suis faible et que c'est Dieu seul qui me guide et me protège ». Et on pourrait continuer comme ça, Pentecôte, de se souvenir que Dieu un jour a donné la loi et que cette loi, elle n'a pas été donnée il y a je ne sais pas combien de milliers d'années pour des gens qui n'existent plus, mais que cette loi, elle m'est donnée aujourd'hui à moi comme une ligne de vie. « Souviens-toi de cela, dit la tradition juive, souviens-toi de cela et enseigne-le à tes enfants ». Ça, c'est le mémorial de dire qu'un événement passé peut être fondateur et reste vrai, et est appelé à rester vrai, et est ce que nous devons ne jamais oublier, parce que c'est là le sens profond de la vie. Et donc oui, la scène est, je dirais, une nouvelle fête juive, dans ce sens, dans la tradition de toutes ces grandes fêtes, c'est ce mémorial pour nous souvenir que le Christ se donne, et que le don du Christ est le point fondateur de toute notre vie spirituelle et de notre Église. Et que ça reste vrai, qu'aujourd'hui encore le Christ continue de se donner pour notre vie. Il est encore pour nous source de force, de joie et de vie, et qu'il nous est beaucoup demandé, mais en même temps, on nous donne là tout le carburant d'un don infini d'amour qui nourrit notre vie dans la surabondance pour être capable de tout faire dans ce monde. Et ça, c'est vrai de plusieurs manières. D'abord, si vous êtes un bon croyant, si vous avez une foi active, eh bien, en communion, vous éprouvez une émotion religieuse infiniment bienfaisante et qui ressource, qui renouvelle, qui nourrit intérieurement, c'est très bien. Si vous êtes moins mystique, mais que vous comprenez le sens des choses, vous pouvez dire « je comprends qu'en donnant sa vie, le Christ a témoigné de l'amour de Dieu, que sa mort est une preuve de son amour ». Et que le Christ est mort pour les justes comme pour les injustes, en distinction, pour tout le monde, et que par conséquent, aujourd'hui, nous voulons le dire, aujourd'hui, il y a là, en Christ, une source d'amour et de vie qui est donnée à tous, sans distinction. Et c'est pourquoi nous insistons pour dire que tout le monde est accueilli à la scène. On ne fait pas le tri. Toi, tu es baptisé, toi, tu ne l'es pas, toi, tu es bon, toi, tu as trompé ta femme, ton mari, tu as volé dans tes impôts, tes dents... Tout le monde bienvenue à la scène. Parce que le Christ, il n'a pas dit « Allez, okay, je meurs pour les justes, mais pas pour les voleurs ». La croix du Christ est pour tous. Après, il faut gérer sa vie au mieux, mais en tout cas, cette universalité de la grâce est une chose absolument essentielle. Et puis, enfin, si vous êtes plus intellectuel encore, vous pouvez dire que le Christ est la parole. Et que par conséquent, communier, c'est dire « je veux me nourrir de l'enseignement du Christ, me nourrir de sa parole, je veux intégrer en moi son évangile ». Et se nourrir de sa parole, c'est comme ce que vous dites quand vous dites que vous dévorez un roman ou que vous buvez les paroles d'un prédicateur. Eh bien, je dévore le pain et je bois le vin, je le mets en moi comme une source essentielle, de le mettre en soi, une source de vie, ou comme vous mettez un logiciel dans votre ordinateur, vous le nourrissez d'informations et il fonctionne merveilleusement. Donc la scène, c'est un merveilleux logiciel pour notre vie et on symbolise ça par ça. Et c'est ça que dit Jean, où il dit qu'il donne son corps et son sang, nourrissez-vous de cela, mangez-le pour que je sois en vous et vous en moi. Donc vous voyez que la communion signifie plein de choses. Une communion, spirituelle, communauté, fraternité, un partage de la simplicité. Elle nous rappelle la mission que le Christ nous propose de nous-mêmes nous donner pour le monde, et elle nous redit que nous avons en lui une source infinie de joie et de paix. Cette communion, bien sûr, c'est un rite, et un bon calviniste dirait les rites, on peut s'en passer, mais les rites sont absolument essentiels parce que notre vie n'est pas une vie purement intellectuelle ou spirituelle, mais nous avons besoin de le vivre concrètement entre frères et sœurs, les uns avec les autres, et de se rappeler là le cœur du message du Christ, qui est que Jésus nous a aimés jusqu'au bout, qu'il est mort pour nous, qu'il nous invite à marcher à sa suite, et qu'en lui nous avons la plénitude de tout ce qu'il nous faut pour vivre, d'amour, de force, de joie et de paix. Et ça, c'est donné en abondance, de la façon la plus simple possible, simplement comme un repas à partager. Amen.